Et je précise que ce film, Jeune Mère, n'est pas réservé qu'aux festivaliers, puisqu'il sort en salle aujourd'hui partout en France, dès 14h. Jeune Mère, le titre est au pluriel, et voici la voix de l'une d'entre elles.
Quand je suis arrivée ici, je voulais donner ma fille en adoption. Je l'ai pas fait parce que vous m'avez aidée à pas avoir honte d'être une mère célibataire. Toi, Yasmine, t'as parlé des jours et des jours avec ma maman, qui a accepté de me revoir avec ma fille. Merci à toi et à vous toutes.
Une échappée à Cannes avec les frères Dardenne, c'est Totémique jusqu'à la prochaine heure. On commence par une image, c'est le lieu pour quand même. Lumière de fin de journée, le dernier plan de leur film qui s'intitule « L'enfant » vient d'être tourné. Jean-Pierre Dardenne s'éloigne sur un pont pour aller marcher seul et fumer. Un instant plus tard, son frère Luc le rejoint d'un pas décidé. Cette image conclut un documentaire que Jean-Pierre Lunozin leur a consacré et qui raconte ces deux hommes. Un cinéma unique à deux têtes. Même lorsqu'un seul se balade dans la rue et qu'il est reconnu, on le reconnaît au pluriel. Luc et Jean-Pierre, Luc ou Jean-Pierre, c'est les frères. Pour eux, cet après-midi, l'adrénaline sera au carré, puisqu'ils présentent Jeune Mère à 16h en compétition officielle, et le film est dans toutes les salles au même moment. Jeune Mère, c'est le parcours de 5 jeunes femmes accueillies dans une maison maternelle. 5 enfants qui ont des enfants, puisqu'elles ont 15, 16 ans. Dans ce lieu, d'autres femmes les accompagnent pour les aider à décider de ce qu'elles vont faire de cette maternité, comment le lien se crée ou pas. Dans tous les cas, l'idée est que chacune trouve son chemin, prenne une décision qui sera la sienne. Il y a 26 ans, Jean-Pierre et Luc Dardenne montaient les marches pour la première fois. C'était pour Rosetta et pour une Palme d'Or et un prix d'interprétation décerné à Émilie Dequesne. Aujourd'hui, ils seront au pied du palais avec des femmes dont certaines viennent de vivre avec eux leur toute première expérience de cinéma. Bonjour, bienvenue, ici Cannes.
Totémique. Rebecca Manzoni sur France Inter.
Jean-Pierre et Luc Dardenne, bonjour.
Bonjour, bonjour.
J'évoquais la première montée des marches, mais la première fois à Cannes, c'était il y a près de 30 ans pour La Promesse. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ici, en venant ici ?
Surpris.
Luc, ouais.
Heureusement surpris.
Ouais.
C'est que quand on a passé le film La Promesse, Libération, le journal Libération,
ouais.
Olivier Siguret en a fait la couverture, enfin la première page de Libération et un article. Nous, on n'a pas compris ce qu'il se passait. On ignorait que notre film allait tellement être aussi important qu'il puisse être...
Être à la une.
Être à la une d'un grand quotidien, voilà. Donc, beau souvenir, beau souvenir.
En tout cas, La Promesse racontait le lien entre un père et son fils.
Oui.
Et la façon dont le fils s'opposait à son père, le fils s'en libérait. Et aujourd'hui, 2025, ce que vous questionnez, c'est la maternité avec Jeune Mère. Comment ce sujet-là, de la maternité, s'est imposé à vous ? Est-ce qu'il y aurait eu un déclic ? Jean-Pierre ?
Un déclic, je suis pas sûr. Plusieurs choses, sans doute. Peut-être on en avait assez de traiter du rapport de père et de fils.
Ah ouais ? Il y a eu l'enfant, la promesse, le fils, mine de rien.
Mais ce qu'on s'est dit, parce que c'est vrai, il y a une histoire, pourquoi on est arrivé dans cette maison maternelle, et cette maison maternelle est devenue le centre de notre film. Enfin, les jeunes filles qui étaient dedans. Mais au départ, on travaillait, on voulait développer un scénario autour d'une jeune mère qui n'arrivait pas à avoir un contact avec son bébé et qui résidait en partie dans une maison maternelle. Et on allait essayer de raconter comment elle allait pouvoir ou pas créer un lien. Et on est allé se renseigner dans une maison maternelle pour savoir c'est quoi une maison maternelle. Et c'est en étant dans cette maison maternelle qu'on est allé 2-3 fois au départ. On s'est dit, mais peut-être que, en voyant toutes ces jeunes filles, les bébés qui étaient là, les femmes qui les entouraient, la directrice, la psychologue, les éducatrices, on entretenait la vie. La vie était vraiment entretenue, la flamme de la vie était entretenue dans cet endroit. C'était une institution, mais c'est une institution où les gens avaient des rapports d'individu à individu. Et je pense que ça nous a happé, tout simplement.
C'est le lieu, en fait.
Oui, et les gens qui,
et les gens qui travaillent.
Qui ont fait qu'on s'est dit, tiens, et ce serait peut-être aussi en même temps pour nous l'occasion d'essayer peut-être de raconter une histoire d'une autre manière que ce que nous avons fait jusqu'à présent.
À savoir
être concentré sur un ou deux personnages ou un personnage qui rencontre un autre, essayer de faire allez, trois, on ne savait pas encore, trois, quatre, cinq, un groupe. Voilà.
Et donc de suivre cinq jeunes femmes.
Voilà, voilà.
Mais quand vous dites c'est le lieu qui finalement a décidé du film, y compris dans l'écriture du scénario, puisque cinq personnages se sont imposés plutôt qu'un seul, avant même ça,
ah ben alors...
qu'est-ce que vous vouliez, qu'est-ce qui vous intéressait dans ce lien de mère à bébé?
C'est peut-être le premier lien, la chose la plus fragile, la plus fondamentale sans doute. Voilà. Et que au départ. Et puis, je me tairai après.
Ah non,
au départ, sur l'enfant, notre film L'Enfant,
oui.
L'origine de ce film, c'est une jeune fille qui était sur le pourtour de notre plateau pour le fils. Une jeune fille seule de 15 ans, avec un bébé, on n'a jamais vu d'homme. Et on s'est dit, quand on a fait L'Enfant, on va inventer un homme à cette femme, à cette jeune fille. Et c'était interprété par Jérémy Régnier.
Oui.
Et c'est comme si on pourrait dire, c'est comme si cette jeune fille qui arpentait notre plateau du fils avait continué à frapper notre porte en disant, eh les gars, et moi? Pourquoi vous vous intéressez pas à moi? Voilà.
Oui, et peut-être que...
Luc.
Dans la violence du monde dans laquelle on est, on était aussi il y a 2 ans, 3 ans, je pense que quand on est allé dans cet endroit-là, il y avait le groupe, comme dit Jean-Pierre, il y avait quelque chose aussi avec, bon, il y a aussi du malheur. C'est des solitudes aussi, ces jeunes femmes qui vivent des choses difficiles. Mais certaines s'en sortent. Et on a voulu que dans le film, elles s'en sortent toutes d'une façon ou d'une autre. Mais on a senti qu'il y avait quelque chose de, comment vais-je dire, d'extrêmement important. C'est cette fragilité de la vie. Ce lien qu'il peut y avoir entre une mère et son enfant, la responsabilité qu'il peut y avoir, même si c'est pour le confier en adoption ou en famille d'accueil, c'est se sentir responsable de l'enfant, vouloir qu'il ait une vie meilleure que la sienne ou que celle qu'on a eue avec que sa mère, etc. Donc, je crois que cette fragilité-là, par rapport à la force qui se déploie dans le monde, la violence, la guerre, je pense que ça a été lié.
Mais ce qui est beau aussi dans ce que vous racontez, dans chacun de ces cinq parcours, c'est finalement la liberté d'en décider.
Oui.
C'est-à-dire que vous avez choisi un lieu où ces jeunes femmes donc, décident ou non d'être mères.
Oui.
Et ce que vous racontez, c'est que finalement, ça se construit.
Exactement. Et que c'est en lien avec d'autres femmes, les éducatrices, la psychologue, la directrice.
Et que ça ne se construit pas seul.
Voilà, exactement.
J'aimerais qu'on écoute un extrait. De jeune mère, c'est au début du film, et j'ai choisi un extrait où on n'est pas à l'intérieur de cette maison maternelle comme un refuge, mais à l'extérieur. Elle s'appelle Jessica, c'est le nom du personnage, la comédienne s'appelle Babette Verbeek. Elle est en voiture et elle a rendez-vous avec celle qu'elle n'a jamais rencontrée et qui est sa mère. Et tout ça ne se passe pas dans un cocon, mais à côté d'un arrêt de bus. On écoute.
Bonjour. Bonjour. Pourquoi t'es pas venue au premier rendez-vous?
J'ai dû rester au boulot. C'est pour quand?
2 semaines.
Une fille? Tu vas l'appeler comment?
Alba. Et toi, tu t'appelles comment?
Morgane.
Babette Verbeek qui interprète Jessica et India Air qui interprète sa mère, extrait de Jeune Mère. Et je voulais qu'on écoute ça parce que il y a beaucoup de bruit.
Oui, oui.
Et je me demandais quel était le rôle du bruit ambiant. Attendez, je parle à la régie là parce que j'entends tout ce que vous dites en régie en fait. Voilà, merci, on est en direct. J'avais perdu. Oui, je voulais écouter cet extrait de film parce que je me demandais quel était le rôle pour vous de la circulation dans cette scène, du bruit ambiant qui est hyper présent.
Le rôle du bruit, avec les silences que laissent les deux comédiennes entre leurs répliques, c'est la musique de la scène, c'est le rythme de la scène. Et que on a fait quelques prises. C'est un film où on n'a pas fait beaucoup de prises, on en a fait quelques-unes. Et il nous a semblé que c'était la plus réussie, justement, parce que le bruit de la circulation rythmait et était à l'intérieur de cette scène, et elle-même était prise dans ce bruit. Le monde était là, à travers ces bruits de la circulation, de la violence aussi de la circulation, et il y avait cette fragilité, comme disait Luc tout à l'heure, de ce lien que cette fille essayait d'établir avec cette femme qui est sa mère, et qu'elle n'a jamais vue.
Oui, une chose d'une extrême importance entre deux êtres humains se passe au milieu du bruit de la ville, qui continue à aller son chemin. Les voitures passent, les camions, les bus, et se dit quelque chose d'important. C'est pour ça que ça prend toute son importance aussi, leur dialogue.
Mais en fait, quand on sort de cette maison maternelle refuge, la violence de l'extérieur, elle passe justement par le bruit ambiant dans votre film.
Tout à fait. Oui. Et c'est ça que les jeunes mères doivent s'y habituer. Elles doivent s'y habituer. Mais c'est vrai que il y a une protection, évidemment. C'est un lieu de protection. C'est un abri, la maison maternelle. Et il faut en sortir. Il faut aller à l'école. Il faut aller travailler. Il faut devenir quelqu'un de responsable de soi et de l'enfant. Donc, ça demande d'affronter le bruit. Et c'est ça qui est pas toujours simple.
Dans cette scène, vous avez essayé plusieurs rythmes. Vous avez essayé plusieurs longueurs de silence.
Oui. On a fait plusieurs longueurs de silence. Et la circulation, on ne la dirige pas. Hein.
Eh ben oui.
Voilà. Et il se fait qu'on a essayé de profiter au maximum des moments où les feux rouges libèrent les voitures et les camions pour que ça puisse circuler.
C'est-à-dire que vous avez calé votre mise en scène sur la circulation?
Mais
un peu.
On savait pas exactement, mais on savait qu'il y avait des moments où il y avait plus de bruit que d'autres, et on avait remarqué que quand ça se passait dans le silence, la scène entre les deux comédiennes. Ce qui devait, la fragilité, l'importance de ce qui se passait là, eh ben, subitement, avait moins de force, c'est comme si le bruit qui essayait d'exister là dans cette scène donnait plus d'importance à ces deux femmes et à ce qu'elles se disaient.
Et puis, bon, rendons à César ce qui est à César. Les deux actrices, India Air et Babette Verbeek, sont extraordinaires. Et, je veux dire, on a essayé effectivement plusieurs temps de silence, des rythmes différents, mais à un moment donné, c'est elles qui sont là,
et qui
le sentent, et qui, même si on a dit à Babette, tu comptes jusqu'à 5 avant de... Bon, peut-être elle a compté jusqu'à 4, on n'a pas compté, elle a senti aussi. Bon, ça, elles ont été extraordinaires.
Mais dites, vous disiez que vous ne pouvez pas diriger la circulation, les feux rouges, etc., mais il y a quand même des personnages essentiels dans ce film qu'on dirige difficilement aussi. C'est les bébés.
Ah.
Ah oui.
Tout à fait. Mais
parce que
ça a été...
vous êtes des cinéastes qui fuient la posture des acteurs, etc. Bah alors pour le coup là, le bébé,
il n'est jamais
dans la fiction, quoi.
Non, voilà, c'est ça qui nous a bien aidé.
Ça vous a aidé
beaucoup, et qui a aidé aussi certaines actrices qui l'ont dit plusieurs fois. Ouf, grâce au bébé, j'ai pu faire la scène sans trop de stress parce que je devais m'occuper du bébé. Mais les bébés ont amené, ça a été pour nous une grande différence, une grande découverte, parce qu'on, comme vous, on était un peu angoissés en se disant, bon, que va-t-il se passer? Eh bien, ils nous ont bien aidés parce que le bébé, il est là, c'est tout. Il ne sait pas qui joue et qui doit faire ci ou pas ça. Donc, il fait ce qu'il fait, si je puis dire. Et les actrices, tout en jouant ce qu'on avait répété, elles devaient tenir compte d'une présence réelle qui leur échappe, c'est-à-dire un document. C'était le documentaire dans la fiction. Et ça a été extraordinaire pour trouver justement des rythmes différents. Et là, c'est des rythmes qu'on n'a pas, si je puis dire, dirigés. Ils sont venus avec la réalité. Et parfois, c'était magnifique.
Jean-Pierre ?
Nous, on avait intégré ça tout de suite dans notre travail avec les jeunes filles. On a fait des répétitions, 5 semaines, avec les poupées. À la fin des répétitions, on a mis des bébés. Les bébés sont arrivés, et après nos répétitions, elles allaient aussi aux séances d'entraînement avec les bébés de la maison maternelle. Hein. Donc elles se sont familiarisées, parce que pour la plupart, elles n'avaient jamais passé autant de temps avec un enfant dans les bras, pour, je pense, aucune d'entre elles.
Mais ça a servi, cette maladresse.
Voilà, absolument. Mais il fallait quand même un tout petit peu d'adresse, quand même. Hein, parce que en même temps, il faut faire attention, là, ça bouge.
Ils sont vrais, les bébés, ils existent.
Ça bouge. Et on a, chaque fois qu'on a fait des scènes où les bébés avaient une place importante dans notre mise en scène, on les a toujours considérés comme partenaires, pas comme objets ou petits sujets dont il fallait un peu servir et puis écarter. On les a toujours mis, ils sont tout le temps là. Et on avait dit aux jeunes filles, voilà, on a répété tout ça, l'enfant, là, bon, ça a été, il n'a pas trop bougé, pas trop crié. Si jamais ça change, eh bien, vous faites comme dans la vraie vie. Vous vous occupez de cet enfant et vous essayez aussi de continuer à faire la scène. Et si ça ne va pas, on vous le dira. Mais faites continuez. Et c'est on a tout de suite intégré, et 9 fois sur 10, ça n'a pas posé de problème, au contraire. Et les enfants sont formidables, parce que, par exemple, quand Julie demande qu'on lui enlève le bébé de la poche ventrale dans laquelle elle le tient, chaque fois, à chaque prise, l'enfant, à chaque fois qu'il quittait la proximité du corps de sa mère de cinéma, il pleurait. Et à chaque fois, formidable. Mais pas trop, pas trop, pas trop.
Et vous savez vous y prendre dans la vie avec les bébés ?
Ça va.
C'est vrai ?
Oh bah, je suis père de 3 enfants, donc j'ai quand même...
Vous connaissez le dossier.
Et grand-père de 2 enfants.
Maintenant, je vais vous présenter une fille qui a du tempérament. C'est le premier disque de la bande originale de Totemic ce matin. Elle vient de Londres, elle s'appelle Lola Young et elle donne envie de célébrer l'Angleterre. Can you come around for me nice? Pull my hair, sing me lullabies. And we can pretend that we're in love. When you come. Nous ne sommes pas aux marches du palais, mais au dernier étage avec Jean-Pierre, et Luc Dardenne, désolé.
Non, c'est...
On est parfois une personne.
Ça fait partie de la scène.
Vous fusionnez, en fait. Oui. Je crois que vous avez eu envie à un moment d'être comédien, Jean-Pierre.
Oui, à l'école en tout cas, j'ai fait des études pour ça, oui. Voilà.
Qu'est-ce qui vous motivait dans cette envie ?
Ce qui motivait... Parce que je pensais que c'était une plus belle vie, que la vie était plus belle. Et je pense que c'est parce que notre mère avait joué quand elle était jeune, dans une troupe de théâtre amateur, et que quand on était môme, elle jouait pour nous. Des trucs d'opérette et tout ça, elle nous asseyait sur un canapé, et elle chantait. Voilà. Et elle nous a toujours parlé de ce monde, mais elle a fait ça en amateur. Comme si c'était plus belle la vie, plus belle que la vie, plus beau que la vie. Et je dois dire que comme j'étais un type un peu négatif, je me suis dit là peut-être c'est bien, peut-être c'est mieux. Et je suis parti pour ça, voilà. Mais j'avais pas malheureusement beaucoup de qualité pour parce que si on n'est pas un bon comédien, je m'en rame beaucoup. Et puis j'ai fait d'autres rencontres qui fait que quand même en passant par cette histoire de comédien, voilà, j'ai rencontré.
Et l'une de ces rencontres fondamentales. Pour vous, comme pour Luc, c'est Armand Gatti.
C'est Armand Gatti, voilà.
Et ce matin, vous avez choisi d'écouter la voix d'Armand Gatti, écrivain, journaliste, poète, cinéaste, dramaturge. On va écouter sa voix il y a 60 ans pile, puisque c'était en 1965, dans une émission qui s'intitulait « Démons et merveilles du cinéma, la voix d'Armand Gatti ».
Pour moi, le cinéma qui ne concourt pas, le théâtre qui ne concourt pas à libérer l'homme d'un poids d'injustice, à libérer l'homme du conformisme. Pour moi, ce n'est pas une forme d'art. Pour moi, ça ne m'intéresse pas, ça n'existe pas. Et je ne crois pas avoir une position extrémiste. Je crois que, comment dirais-je, un art qui n'entre pas dans la vie de l'homme, hein, pour le changer, pour le métamorphoser, pour l'enrichir, que signifie-t-il ? Certes, il y a toujours, enfin, le plaisir esthétisant. Mais peut-il exister, enfin, un contenant sans contenu ?
On comprend, rien qu'à la voix de cet homme, comment il a pu donner un élan, quoi.
Ouais, ouais. Et oui, moi j'avais 20 ans.
Voilà. Et moi 19. 18, ah non, t'avais 20 ans.
Quand je l'ai rencontré à l'école, j'étais en dernière année.
J'avais 18 ans, t'avais 21. Quand moi j'arrive, j'ai 18 ans. Ouais.
Et j'ai eu comme prof. Et là, je me suis dit qu'il se passait quelque chose. Je ne me suis pas dit de manière aussi construite que ce que je vous dis maintenant, mais je me suis laissé prendre comme dans la maison maternelle. Je me suis laissé happer et c'est vrai que le vent était violent, mais ça valait la peine.
Pourquoi vous dites le vent était violent?
Ah oui, parce que ça vous ouvre à des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, parce qu'il y a de l'exigence, parce que vous ne comprenez pas toujours tout, mais vous faites quand même, vous suivez, vous voilà. Et puis on se moque de vous aussi parce qu'on dit que vous faites partie d'un sous-groupe affectif, enfin, etc. Ça, on s'en fout. Mais ça a changé vraiment ma vie. Ouais. S'il n'y avait pas eu la rencontre avec Gatti, je n'aurais jamais, Luc et moi, je pense, on n'aurait jamais travaillé ensemble.
Ah oui, à ce point. C'est lui qui vous a réunis.
Mais on est ses fils en art, si je puis dire. Oui, ses fils spirituels. Oui, parce que on a travaillé ensemble pour lui en théâtre. Hein. Et puis il est parti en Allemagne, je pense, monter une pièce. Je ne sais plus laquelle, mais il est parti en Allemagne. Et nous, on est restés en Belgique et on s'est dit que faire. On s'est dit, mais pourquoi pas faire comme lui? C'est-à-dire, il faisait de la vidéo, il y avait une équipe vidéo qui travaillait aussi autour de ce spectacle. Et on est allé travailler dans une centrale nucléaire, tous les deux, pour gagner un peu d'argent, enfin pas mal d'argent. Et avec cet argent, on a acheté notre première caméra vidéo pour faire comme lui. Et on a fait comme lui, des portraits de gens. Voilà.
Mais, avec cette ambition de changer le spectacle.
De changer le monde.
Oui, voilà. De changer le monde.
Oui. Ah oui, à ce moment-là, on était là-dedans.
On était lyrique, là.
On voulait changer le monde. Et on allait chez les gens dans les cités, dans ce qu'on appelle, vous appelez ça les bars. Nous, il n'y a pas vraiment des bars comme ici dans les cités, mais on allait chez les gens et c'est étonnant. À l'époque, ils nous ouvraient, ils écoutaient ce qu'on disait, alors qu'on représentait personne. Après, on a eu une subvention du ministère. Donc là, on signalait qu'on avait le ministère avec nous, si je puis dire, de la culture. Et on disait aux gens, voilà, on va passer samedi dans une salle de la cité, la salle paroissiale, la maison du peuple, ça dépend un peu, un garage, quand il n'y a pas de lieu collectif. Et on vous demande si vous avez déjà vécu une injustice contre laquelle vous vous êtes battu, révolté, et pouvez-vous nous la raconter? Et les gens disaient, bien sûr, entrez, asseyez-vous. Et souvent des injustices sociales, parce qu'on était, il y avait toutes les usines. Donc c'était souvent lié au travail, aux injustices liées au travail, mais pas que. Et les gens racontaient. Et le samedi, on passait ça. Mais je dois dire que les gens qui venaient écouter le samedi ce qu'on avait filmé, c'était souvent les gens qui avaient été filmés.
Oui,
mais enfin, il y avait aussi parfois, ils venaient en famille. Et, bon, la famille n'avait pas entendu et ils venaient écouter.
Mais est-ce que vous voulez encore changer le monde aujourd'hui en faisant du cinéma? Est-ce que cette ambition, elle est intacte ou pas?
Mais ce qu'il dit là, Gatti, ce qu'il disait, je pense que c'est nous aussi. Je pense que normalement, enfin, une œuvre d'art, si elle ne vous bouleverse pas, que ce soit une peinture, un spectacle de théâtre, une représentation de théâtre, de la danse ou un film, si l'œuvre à laquelle vous, en tant qu'individu, femme, homme, vous êtes confronté pendant un certain laps de temps, si ça ne fait pas remuer des choses en vous que peut-être vous ignoriez même, si vous ne sortez pas un peu différent, au moins un ou deux ou trois spectateurs, spectatrices, je pense qu'il a raison.
Évidemment, c'était l'époque des grandes idéologies, là, quand il parle.
Mais en des idéologies, je ne parle pas de ça.
Oui, mais lui, il est là-dedans.
Lui, il parle de ça. Je pense qu'une œuvre, ça a cette fonction-là, quand même. C'est de faire vibrer des choses en vous, de vous remuer, de vous faire prendre... à un moment donné, vous dites, je suis présent face à cette affaire, et cette affaire me rend présent au monde.
Et il prononce un mot, Gatti, il prononce le mot esthétisation. Comme s'il opposait.
Oui. Et le plaisir aussi qu'il oppose. Esthétisation et plaisir opposés à militer. Et...
Oui. Voilà. Oui. Mais... ça veut dire quoi pour vous, l'esthétisation?
C'est un danger. C'est un vrai danger. C'est pour ça qu'on essaye toujours de... C'est ce que nous nous disons tous les deux. Bon, j'avais essayé d'expliquer ce que ça veut dire, mais nous, on se dit, attention, ne tombons pas dans l'image. C'est-à-dire, ne filmons pas l'image d'une jeune mère, l'image d'un bébé. Essayons de filmer un bébé, ce bébé-là. Essayons de filmer ce Jessica, ce Ariane. C'est-à-dire que quand on filme, il ne faut pas que la personne qui filme s'échappe du cadre et qu'on n'ait plus que sa caricature, son image. Ah oui, ça va, on a compris. Oui, c'est le cas d'une fille qui a vécu ça dans sa vie. Ça va, merci, on connaît. Vous voyez, que la personne soit toujours là, avec ce regard face à vous qui regardez l'écran.
Je me permets un autre exemple que j'avais vu donc, dans ce documentaire que j'ai cité au début de l'émission, Jean-Pierre Limousin, où à un moment vous tournez pour l'enfant, et puis il y a une lumière magnifique, le soleil qui se lève. Et là, à ce moment où c'est vraiment très beau, vous dites « On arrête, c'est joli
!» Oui, là c'est non, trop c'est joli. Bien,
ça, mais non. Ça, c'est une synthèse de...
Oui,
il y a quand même... ça vous raconte, ça.
Oui, voilà, la joliesse.
Tout à fait.
Oui,
tout à fait. C'est encore pire, ça. Oui, le pittoresque.
Oui, le pittoresque, la joliesse, le coucher soleil, comme on dit.
Il y a des couches. Bon, Terrence Malick a fait des films formidables avec ces images-là, mais c'est autre chose. Quoi.
Tout ça n'est valable que pour nous. Règle générale. C'est notre cuisine interne.
Alors, au point que pour jeune mère, que vous avez tourné donc, dans cette maison maternelle, vous n'avez pas ajouté de décor, vous n'avez pas ajouté de lumière, vous n'ajoutez pas de musique non plus, mais je vous ai quand même demandé de choisir un tube. Et ce tube que vous avez choisi, il date de l'année 1962, on va le reconnaître, c'est celui-ci.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux.
Moi, je vais seule, etc.
Donc... Et oui.
On est en 62.
Oui.
Jean-Pierre, vous avez 11 ans.
11 ans, oui.
Luc, vous en avez 8.
Oui.
C'est la bande-son de votre enfance, ça, ou pas, alors?
C'est 66, moi.
Oui, mais le souvenir est un peu lié un tout petit peu après 62, quand même. Alors, à 11 ans, j'ai 13, 14 ans.
OK.
On partait jamais en vacances avec les parents, tout ça. Les parents, on partait pas en vacances, la famille. Et on allait à une bande de copains en vélo, on allait à la piscine de Serein, comme on disait. Mais en fait, on n'allait pas à la piscine, on allait au café de la piscine, on allait jouer au kicker, au baby-foot, comme vous dites vous.
Ouais.
On buvait des tangos. Des tangos, c'est de la bière mélangée avec de la grenadine, parce qu'à notre âge, la bière était un peu trop amère, donc elle était mélangée avec de la grenadine. On fumait des visas vertes ou des visas rouges, je ne sais plus. Et il y avait un jukebox. Et un des trucs favoris du jukebox, c'était cette chanson, parce que je pense que tous les copains, et moi aussi, on aurait tellement bien voulu lui dire à Françoise Hardy, mais nous, on est là, ce sera plus toute seule.
Vous n'êtes pas seul.
Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Mais voilà.
On l'aimait beaucoup.
On écoute encore un peu.
L'âme en peine, oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime.
Eh ben, les Dardennes, si. Ils aiment Françoise Hardy.
Oui, écoute toujours.
Pourquoi vous ne faites pas... pourquoi vous ne faites pas confiance à la musique dans vos films?
J'en sais rien.
Parce que c'est peut-être une question de confiance.
Peut-être. Mais en tous les cas, il nous semble que quand on a fait la promesse, c'est là qu'on a décidé de ne pas mettre de musique, parce qu'on ne sentait pas non plus la nécessité d'en mettre. On s'est dit, mais pourquoi mettre de la musique? Le rythme de nos films, il est là dans les plans séquences, qui sont un montage. On passe d'un plan rapproché à un plan plus large, plus rapproché. Il y a les ruptures entre les plans. Donc c'est ça, notre rythme. Et on n'a jamais pensé la musique autrement. On s'est toujours méfié, pour reprendre le terme de Gatti, esthétisation, de dire, attention, là, on est en train d'enrober la réalité de quelque chose de doux, de quelque chose d'enveloppant, qui essaye de mettre le spectateur en accord avec ce qu'il voit. Or, ce qu'on cherche, nous, c'est que le spectateur reste devant ce qu'il voit. Oui, il s'identifie par moments au personnage, mais le personnage le surprend. Donc, on veut qu'il y ait comment vais-je dire, cet échange permanent avec le spectateur qui ne soit pas une pure évasion. Il s'évade et en même temps, si je puis me permettre ce mot un peu énorme, il pense. Il est là et en même temps, il regarde, il dit mais pourquoi elle fait ça, pourquoi il fait ça. Qui, voilà, il la juge et puis il dit non, je me suis trompé, elle n'est pas comme ça en fait, Rosetta, elle est aussi comme ça. Donc vous voyez, on avait peur de que la musique crée une sorte de communauté d'accord au niveau du sentiment, au niveau des émotions, voilà.
Un petit chantage à l'émotion.
Un petit, oui, voilà. C'est un peu ça qui nous a au départ, on s'est dit non, l'âpreté de ce qu'on veut filmer sera plus présent s'il n'y a pas la musique, voilà. Mais il y a des musiques in, ça oui.
Oui, oui, oui. Notamment dans Jeune Mère, les sonneries de portable au son, du rap. Quand, voilà, quand ça sonne, on entend des petits bouts de rap. Alors, tout ça, évidemment, l'absence de musique, ça va dans le sens du refus de l'esthétisation.
Oui.
Mais aujourd'hui, on vit dans une ère des réseaux sociaux. Je sais pas si vous êtes sur les réseaux, les frères.
Non.
Où, justement, l'esthétisation, la mise en scène de soi est permanente. Oui. Est-ce que vous observez ça? Est-ce que ça change un peu votre façon de faire du cinéma ou pas du tout?
Mais...
Non,
c'est-à-dire que c'est un peu prétentieux là ce que je vais dire, mais je le dis quand même.
Allez-y.
Mais je pense que ça nous renforce dans ce qu'on fait. Bon, on dit puis les mecs ils font un peu de leur gueule là, mais voilà, ça justement, ouais.
Musique. Tout va bien. C'est lui qui le dit, et il se fait appeler Dali.
Elle me remporte le matin élégant. J'ai beaucoup d'efforts, avec elle je mets les gants. Avec elle je mets les gants. Je sais que je suis chelou de temps en temps. Je lui dis des mots d'amour. J'ai pris les talons beige qu'elle aimait. C'est avec le rouge sous la semelle. J'ai pris les talons beige qu'elle aimait. C'est avec le rouge sous la semelle. J'sais pas pourquoi. J'sais pas si c'est juste le timbre de ta voix ou la courbure de tes fesses. J'aime bien quand t'es là, que tu montres comment faire. Et chuchote que ça va avec ses yeux brillants pour le ciel. Tout va bien, t'es belle, tu le portes bien. Je me dis que tu ne portes rien, tu peux voler si tu te prends, je me dis à toi. Bien. Toi. J'ai pris les talons beige qu'elle aimait. C'est avec le rouge sur la semelle. J'ai pris les talons beige qu'elle aimait. C'est avec le rouge sur la semelle. J'ai pris le talon beige qu'elle aimait. C'est avec le rouge sur la semelle. J'ai pris le talon beige qu'elle aimait. C'est avec le rouge sur la semelle.
Eux ne seront pas en talons qu'ils aiment avec le rouge sous la semelle, mais en smoking dans quelques heures pour présenter Jeune Mère ici à Cannes, Jean-Pierre et Luc Dardenne dans Totémique donc. Et j'aimerais bien qu'on passe à ce qu'on appelle votre carte blanche, un texte que vous avez écrit. Si je ne me trompe pas, la première fois que vous avez monté les marches, donc c'était avec Rosetta il y a 26 ans, et c'était quasiment jour pour jour. Parce que là, on est à la fin du Festival de Cannes, et voilà, c'est à 26 ans pile. Et vous avez écrit un texte, Luc, pardon, vous voulez dire quelque chose là ?
Oui, je voulais dire que c'était le dernier jour du Festival de Cannes en 99, qui était passé Rosetta l'après-midi, comme cet après-midi va passer notre film Jeune Mère. Alors c'est en hommage à Émilie que j'ai écrit ce petit texte.
On vous écoute.
Voilà. Alors... Je sais qu'à la fenêtre, tu ne viendras plus. Seul reste l'écran de ton regard affamé de vie, de reconnaissance. Belle, haute Rosetta. Plus belle, plus haute Émilie. Tu reviendras sur l'écran et j'attendrai toujours. J'attendrai que tu viennes à la fenêtre, que tu perces l'image, que tu sois là. Tu le peux. Je le sais de la blessure que tu ouvris en mon frère et moi. Je le sais de ta course sauvage devant notre caméra. Je le sais de ne pas le savoir, juste d'y croire, de croire en toi, ton visage, ta voix, tes yeux brouillés de larmes comme le premier jour du casting. Chère Émilie, si chère Émilie, reviens dans la nuit d'une salle, reviens et ouvre l'écran, soit à la fenêtre, soit là, vraiment là. Nous t'attendons.
Votre texte pour Émilie Dequesne, qui avait monté les marches avec vous l'année dernière, d'ailleurs.
On n'était pas là, on tournait, les jeunes mères. Mais elle a monté.
Elle a monté les marches.
On l'a vu.
Pour les 25 ans de cette, ouais, de cette palme, et en 99, évidemment, pour ce double prix.
Exact, voilà. Et c'est aussi ce jour-là, donc le 23 mai 1999, que nous la voyons. Cronenberg dit prix d'interprétation Émilie Dequesne, et elle était revêtue d'une robe longue bustier, je crois, de couleur crème. Et c'est comme un plan séquence. Et on la voit, elle quitte la rangée où on était assis ensemble, et elle s'éloigne de nous. Et on voit son dos qui s'éloigne de nous. Et ce n'était plus le dos de Rosetta. Nous, le dos de Rosetta qu'on avait filmé, c'était un dos avec une blouse de training rouge et noir qui l'a transformé un peu en petit boxeur. Et là, c'était une jeune femme élégante qui s'en allait vers ce dont elle avait toujours rêvé, être comédienne. Et on a vu Rosetta qui quittait doucement, Émilie qui quittait doucement Rosetta et qui partait vers le reste de sa vie de comédienne.
C'était son obsession en venant à Cannes. Je ne suis pas que Rosetta. Je peux être autre chose que Rosetta. Et d'où elle avait toute une garde-robe pour s'habiller, se changer. Et Marie-Christine Damiens.
L'attachée de presse
oui,
du film.
Oui, l'attachée de presse du film. Grande rencontre aussi, Marie-Christine. Et c'est elle qui lui avait trouvé la robe pour monter les marches. C'était un grand moment.
Émilie Dequesne n'était pas que Rosetta, et les frères Danden, ça n'est pas que Rosetta non plus, la preuve, puisqu'il y a 10 films en compétition, enfin là c'est la 10e fois que vous êtes en compétition pour Jeune Mère, c'est bon, vous êtes prêts, le trac.
Oui, toujours un peu, oui, hein. Il faut un peu le trac.
J'espère,
voilà,
dites.
Un peu, il faut juste un peu le s'en occuper, mais il est là.
Il ne faut pas trop en parler surtout, ça
okay.
Fait monter.
On passe à... De toute façon, là c'est la fin de l'émission, et puis je rappelle que le film est en salle aussi, que... oui. Il n'y a pas que les festivaliers qui peuvent le voir, et je vous dis merde.
Merde, merci merde.
Il ne faut pas dire merci, je vous le dis.
Comment merde. On dit en italien, crepi il lupo.
Vous êtes parfait. Claire Destacan a réalisé ce totémique cannois et c'était avec Raphaël Rousseau ce matin. Perrine Malinge programme nos invités. Ilinka Negulescu et Célestine Babinet ont préparé l'épisode du jour. Quant à Jean-Baptiste Audibert, il prend soin de notre BO. La semaine prochaine, rendez-vous au café sur le boulevard Barbès à Paris avec une femme dont le nom de scène est un prénom, c'est Constance. Et je vous retrouve après-demain, dès 10h, en direct pour commenter le palmarès de Cannes avec les critiques du masque. Ici, le Palais des Festivals à Cannes. À vous les studios.